Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 23 février, bonne journée, bienvenue au 98,5. Évidemment, la nouvelle numéro 1 ce matin, l'Ukraine. Et on va faire le tour un peu des enjeux et des derniers développements. Tout d'abord, pour les Américains et les alliés, ça inclut le Canada, l'annonce de sanctions économiques constitue une première série de mesures pour dénoncer ce qui est considéré comme étant une première étape de l'invasion en Ukraine. Donc, les deux territoires contrôlés par les séparatistes pro-russes. Et quand le président Poutine parle de faire des missions de maintien de la paix, on comprend qu'il va déployer des soldats. Et est-ce qu'il va poursuivre l'offensive sur le territoire? D'où la réponse des Américains. Au-delà des sanctions économiques, c'est de l'aide militaire qui est apportée dans le cadre de l'OTAN. Et d'ailleurs, en Ukraine, deux ou trois phénomènes qu'on observe, mobilisation des forces de réserve, des gens qui quittent, des gens qui prennent des trains et qui tentent de trouver refuge dans des secteurs, pour l'instant, moins visés par une potentielle offensive russe. Et troisièmement, on est convaincu qu'il y aura des vagues de réfugiés, des Ukrainiens qui vont vouloir quitter. J'ai vu beaucoup de témoignages hier sur des réseaux anglophones, principalement de membres de la communauté ukrainienne. C'est important au Canada, la communauté ukrainienne. Bonne présence également à Montréal, donc des gens qui ont de la famille encore en Ukraine puis qui sont inquiets de ce qui va se passer. Devant la nature des sanctions, parce qu'il y a des auditeurs qui me disent « Ouais, mais de quoi on parle? » On parle de sanctions économiques pour faire mal à la Russie et aux élus russes. Par exemple, pas question de faire du financement maintenant avec des banques européennes. Ça veut dire également enlever la présence de la Russie, d'institutions russes sur certaines plateformes de transactions. Ça veut dire également s'en prendre aux actifs des députés, je le disais, et ralentir l'économie et faire mal au portefeuille. Les Russes répondent, nous sommes habitués à ces mesures de l'Ouest, de représailles, on l'a vu avec la Crimée. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on n'avait pas prévu le coup? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on n'est pas en mesure de résister à ces sanctions? Et la Chine vient de donner sa voix en appui aux Russes et en critiquant ces sanctions prises contre Moscou en disant que c'était inefficace et que de toute façon, ça créerait des dommages à l'ensemble de la planète. Puis on a vu hier la réaction sur les marchés boursiers. Si vous êtes nerveux, c'est pas le temps d'aller jeter un coup d'œil sur votre portefeuille en ligne parce que c'est la dégringolade. Ça fait un certain temps que ça dure, là. Puis on le voit le prix du pétrole, on voit également l'inflation, puis on voit l'effondrement des marchés boursiers depuis déjà un certain temps. Puis c'est assez solide, là. On a glissé un mot quelques reprises avec Pierre-Yves. Alors, sur le plan militaire, c'est difficile de savoir ce qui se passe exactement, mais Vladimir Poutine a dit dans un discours dans les dernières heures que les inquiétudes de son pays restaient sans réponse, que ses objectifs, ce sont des intérêts qui sont non négociables. Alors, pendant que l'armée ukrainienne mobilise la force de réserve, M. Poutine se montre intransigeant. Il dit, je vais le citer, « Nous sommes un pays ouvert à un dialogue direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques à des problèmes qui sont complexes. Cependant, les intérêts, la sécurité de nos citoyens » sont pour nous non négociables. » Et on rappelle l'enjeu, c'est-à-dire l'Ukraine qui veut adhérer à l'OTAN, qui est perçue comme étant une menace pour les Russes, la présence d'armes de l'OTAN à la frontière. Il y avait déjà la Crimée, voilà que maintenant, on veut mettre la main sur des territoires, puis possiblement sur l'Ukraine. Puis est-ce que ça s'inscrit dans une vague de reconstruction? Certains ont avancé la théorie de l'ex-Union soviétique. C'est à voir. Alors, est-ce qu'on va vraiment passer à une guerre? Plusieurs, et je voyais des experts en sciences politiques dire, entre autres, qu'on se retrouve dans une situation de confrontation la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais M. Poutine demeure toujours très discret, très nébuleux sur ses intentions. On comprend qu'il a déployé un nombre impressionnant de soldats, de quincaillerie militaire, mais pour l'instant, on attend de voir. Et là, vous avez également des soldats ukrainiens sur la ligne de front qui disent on n'est pas équipé pour faire face à une offensive comme ça des Russes. Alors, le président Biden hier qui a défendu, bien sûr, sa stratégie. Le Canada, M. Trudeau, qui a annoncé des sanctions, une première série de sanctions. M. Trudeau a également annoncé le déploiement de 460 militaires canadiens, dont la mission est de dissuader la Russie de déclencher un conflit armé. Alors, ça veut dire davantage de troupes en Lettonie et le déploiement d'une frégate supplémentaire et d'un avion de patrouille maritime. En résumé, après le discours coup de poing de Poutine, la réponse des Américains pour faire mal au portefeuille, M. Poutine ne dit pas un mot sur ce qu'il a l'intention de faire sur le plan militaire, mais réitère qu'il n'est pas négociable pour protéger l'intégrité et la sécurité de son pays. Puis est-ce que ça passe par l'invasion de l'Ukraine? C'est la question. Et les Chinois sont pas très loin et disent ces sanctions-là vont nuire à tout le monde, pas juste aux Russes. C'est démesuré et ça va perturber la planète. Alors, c'est le portrait pour ce qui est de la situation concernant l'Ukraine ce matin. Maintenant, parlons du masque. On vous le disait hier matin, après la relâche scolaire, le masque ne sera plus obligatoire dans les classes pour le primaire, pour le secondaire. Le masque sera maintenu pour ce qui est des déplacements dans les espaces communs, dans les transports scolaires. Et le ministre Christian Dubé a demandé d'avoir une espèce de plan de match pour ultimement arriver à la disparition du masque obligatoire. Il y a encore des gens, le Dr Weiss disait, qui vont porter le masque. On le voit dans des pays en Asie, des gens qui sont plus confortables, des gens que ça rassure, des gens qui ont des problèmes de santé, qui sont peut-être plus vulnérables. Donc, il y a le Dr Boileau qui est supposé présenter un plan. Il y aura un point de presse lui, avec lui d'ailleurs. Et quelles seront les étapes? Alors, on commence par les écoles. Puis là, après ça, ben, on va sans doute regarder toute la question des espaces publics à l'intérieur, les magasins. Il y a la notion également du transport en commun. Pour ce qui est des étudiants de cégep et d'université, on n'est pas rendu là. Alors, on va voir ce qui va se passer. Et donc, on commence par les écoles. Ça arrive au moment où il y a toujours ce débat sur la ventilation dans les classes. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut l'enlever aux primaires? C'est que le nombre de cas d'enfants qui ont été infectés a été spectaculaire durant le temps des fêtes. Vous le savez, là, on a tous quelqu'un dans notre famille qui a des enfants puis que les enfants ont eu la COVID avec des symptômes, somme toute, assez légers pour la plupart. Alors, vaccination élevée chez les ados, chez les plus jeunes, vaccination aussi, pas aussi importante. Bref, une meilleure protection. Et on pense que ça vaut le risque de permettre le retrait du masque. Mais j'ai vu d'autres experts en immunité qui disent que ça va beaucoup trop vite. Puis là, on ne parle pas de gens là, qui sont dans les gens, je dirais, farfelus. Là. Je vous parle de gens sérieux. Mme Machouf qui dit que c'est une décision politique plus que sanitaire, qu'on n'est pas encore capable d'avoir le portrait des écoles. D'ailleurs, en parlant des écoles, c'est intéressant de voir que la presse dit qu'on n'est pas capable de savoir exactement quelles sont les sommes investies pour la qualité de l'air. Dans le Journal de Montréal, Québec se targue d'avoir mis, d'ici la fin de l'année, là, 1,5 milliard pour la qualité de l'air. Là, il faut juste savoir de quoi on parle, de quel type de travaux. C'est à peu près la moitié des écoles, des classes, là, qui n'ont pas de ventilation mécanique. Alors, c'est intéressant de voir ce débat concernant justement le retrait du masque. Puis des gens qui trouvent que ça va beaucoup trop vite, puis une majorité, je pense, qui soutient cette mesure-là, qui s'inscrit dans le retour graduel à la normalité. D'ici la mi-mars, d'ici la fin mars. Puis pour juste conclure là-dessus, parlons d'un sondage. La majorité des Québécois, 70 % sont en opposition avec les anti-vax, les anti-mesures sanitaires, là, tout ce qu'on a vu comme manif à Ottawa et Québec. Donc, c'est le sondage de l'Institut national de la santé publique. Ce qui est intéressant, c'est que la proportion de gens favorables au passeport vaccinal est passée de 77 % à 54 % d'ici la fin de l'été. Et ça, je pense qu'on l'avait quand même noté, c'est-à-dire de voir là, qu'il y a de plus en plus de gens qui disent « ben là, j'ai été vacciné deux fois, j'ai même eu ma troisième dose, mais il faut qu'on passe à autre chose ». Puis j'ai vu des restaurateurs dire « nous autres, on va le demander ». Puis j'ai vu des gens qui ne veulent pas aller dans les restaurants parce qu'ils ont des problèmes de santé, puis qui sont inquiets. Et je pense que dans une des chroniques du Dr Weiss, il a voulu se faire assez rassurant en disant que puis là, il faut que tu fasses appel à l'intelligence des gens. Si vous avez des symptômes, si vous toussez, si vous mouchez, ben sortez pas. Il me semble que ça, c'est le minimum de respect. Puis comportez-vous avec, disons, un respect aussi à l'intérieur des restaurants quand vous vous déplacez. Puis que puis le masque va finir par donc disparaître. Autrement dit, avoir une espèce de code, j'aime pas l'expression d'habitude, là, mais vivre ensemble. Alors, puis là, les gens pensent qu'on est rendu là. C'est pas mal le dossier masque. On va revenir plus tard dans l'émission sur l'entrevue que nous a accordée Dr Jean-François Jonca, qui est le président de l'Association d'orthopédie du Québec. C'est clair qu'avec la liste d'attente qui s'allonge, les fameux patients non-COVID, les gens qui attendent pour une chirurgie du genou, par exemple, risquent de patienter très longtemps. C'est pas prioritaire. Il y a d'autres types de chirurgie, puis les ressources sont limitées. C'était vrai avant, là, on le sait tous, mais ça s'est amplifié. Puis t'as beau avoir des corridors vers des centres privés, dans les hôpitaux, ce qui est priorisé, ce sont les cas les plus graves. Alors, on peut penser à des chirurgies de cancer, on peut penser à des chirurgies cardiaques. Docteur Jonca, ce qu'il soulève, puis c'est un débat, puis je vous le lance ce matin, ça accompagne votre café pour le déjeuner, là. Il dit, on pourrait peut-être faire en sorte que certains cas de cancer puissent être un peu retardés, puis que ça ne vient pas mettre en péril le pronostic. Même chose pour des chirurgies qui, paraît-il, on fait encore pour des gens très, très âgés, pratiquement en fin de vie. Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce qu'on fait la chirurgie ou si on donne des soins de confort? Je sais que ça amène le débat, là. Et Dr Martin Champagne va être avec nous, le président des hématologues et oncologues du Québec. Et là, les médecins, évidemment, moi, je les comprends. Dr Jonca, il dit, ils font quoi, les gens? Puis il y en a beaucoup qui vont vers le privé maintenant, payer 10, 15 000 $ pour une chirurgie parce qu'ils sont tannés d'attente. Puis on parle de gens pour qui la qualité de vie est affectée, puis dans bien des cas, le retour au travail est aussi affecté. Donc, on va vous parler de ça ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu donc votre portefeuille récemment, mais les marchés encore hier ont mal réagi avec ce qui se passe en Ukraine, avec l'inflation qui demeure très élevée. Et il y aura le budget du Québec qui s'en vient. Le premier ministre Legault qui a dit « on va aider votre portefeuille ». Ça sent les élections. Alors il promet des mesures pour aider les familles québécoises avec des revenus souvent qui sont faibles ou encore des revenus qui évoluent à peu près pas. Je pense à des retraités, là, pour qui les placements, les rendements sont pas fabuleux. Et on le voit avec la facture d'épicerie, avec l'essence. Puis il y avait un sondage la semaine dernière, ou début de la semaine plutôt, où on disait en gros qu'il y a à peu près le tiers des Québécois qui revoient à la baisse leur choix dans leurs dépenses de consommation. Ils sont hyper prudents, puis ils laissent tomber des articles qui deviennent trop chers. Puis encore ce matin, on revient sur deux éléments de la chaîne d'approvisionnement. La bataille des chips entre l'Aubla, donc Provigo, et Frito-Lay, qui est une filiale de Pepsi. Et les détaillants qui ne veulent pas augmenter les prix, puis le fabricant, donc qui dit, ben pour mes chips, il faut que ça soit vendu plus cher parce que ma main-d'œuvre me coûte plus cher, mes produits de base me coûtent plus cher, la livraison me coûte plus cher. Puis là, c'est évidemment toute la compétition dans les épiceries. Puis on pense à Doritos, on pense au-delà des Chipotle's, là, il y a Miss Vicky, Tostitos, bon. Puis là, ça veut dire que vous arrivez dans un Provigo, puis il n'y en a pas. Alors ça, c'est quand même un moyen de chantage en disant, OK, tu veux pas que j'augmente les prix, ben terminus. Terminus. Et l'autre chose, ce matin, on se retrouve avec des tablettes vides de certains produits, des céréales. Puis c'est dans la presse que vous pouvez lire ça. Donc, le conflit de travail qui avait créé cette pénurie est terminé depuis 2 mois maintenant dans les usines de Kellogg. Et la multinationale dit qu'elle n'est pas capable de reprendre totalement ses activités. Ce qui fait que si vous êtes des groupies de Rice Krispies puis de Corn Flakes, vous devez, pour votre déjeuner, prendre autre chose. Et ça fait déjà un bout de temps, convaincu que les auditeurs l'ont remarqué. Et ce que ça montre, c'est qu'après même un conflit, ou encore avec la pandémie, puis les différents problèmes de chaîne d'approvisionnement, pas rare qu'on arrive dans un supermarché, là, vous avez probablement vécu l'expérience, c'est pas que les tablettes sont toutes vides, c'est qu'il manque d'un certain nombre de produits. Donc, c'est pas nécessairement la même variété, les mêmes choix qui sont offerts. Politique, vous dire que Stephen Harper est pas chaud chaud à l'idée de revoir Jean Charest. On sait que les deux s'aiment pas. Puis je me souviens de ce cas où M. Harper, premier ministre, avait fait un paiement de transfert au Québec de 2 milliards environ. Puis M. Charest avait pris ça puis avait fait des baisses d'impôts, toutes petites, mais des baisses d'impôts pareilles. Harper fulminait. Et la première fois que la rumeur amenait M. Charest en politique à nouveau, on a fait comprendre, c'est la gang de Harper qui avait dit « il passera pas, je vais mettre mon poids dans la balance ». Alors, la presse nous dit ce matin qu'on veut un vrai conservateur, puis Jean Charest, ça n'est pas un vrai, et que M. Harper, on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle façon, mais a l'intention de jouer du coude si jamais M. Charest se représente. Puis je termine avec ce reportage de Daniel Renaud. En fin de semaine, j'écoute le docu sur la commission Charbonneau que vous retrouvez sur la plateforme Crave. Puis entre autres, Jocelyn Dupuis de la FTQ Construction qui frayait avec des gens du crime organisé, qui avait une compagnie qui s'appelait Carboneutre, qui devait faire une révolution pour essayer d'amener le fonds de solidarité à mettre du fric là-dedans. Puis Carboneutre, ben c'était Rénal Desjardins, puis c'était la mafia italienne, puis on reprochait aussi à Dupuis de fréquenter des motards. Là, ce matin, on apprend que des motards sympathisants des Hells exploitent des camions de recyclage de la firme Ricova, une firme là, qui a pratiquement le contrôle du recyclage à Montréal. Là, ça a l'air que nos amis motards sont là-dedans et ils se cachent pas, là. Alors, il y a un qui s'appelle Jocelyn Bolduc qui est membre des Destroyers, qui possède une société de récupération. Puis Ricova dit, ben nous autres, pas notre problème parce que c'est pas des employés, puis ce sont des gens avec qui on fait affaire, puis on a fait les vérifications. Mais avons-nous remarqué la présence historique du crime organisé dans la gestion des déchets? Vous avez écouté Les Sopranos, c'était une illustration d'un des champs d'activité de la mafia. Là, on est dans le recyclage. Ricova, puis la ville de Montréal, qui... Puis là, on va dire, bien, je comprends, c'est pas nous autres, on n'a rien à voir là-dedans. C'est clair. Mais tu sais, ils sont quand même toujours pas loin. La capacité des filières du crime organisé de se remettre sur pied puis de trouver des stratagèmes pour blanchir de l'argent. Ils ont du cash, faut bien que ça passe quelque part.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Depuis le début de cette pandémie, vous le savez, la liste d'attente pour les chirurgies a gonflé. Il y a toujours eu des listes d'attente, mais évidemment, on a dû prioriser les cas de COVID, des patients COVID qui sont arrivés à l'hôpital. Manque de personnel, manque de ressources, manque de lits. Toujours les mêmes enjeux. Ce qui fait que les patients non COVID ont vu leur délai pour une chirurgie être prolongé. Et on voit depuis quelques jours des médecins qui se questionnent sur les priorités. Qui on doit opérer en premier? Qui doit passer avant l'autre? On comprend que pour les cas très urgents, ça doit se faire. Et on avait hier le président de l'Association d'orthopédie du Québec, Dr. Jean-François Jonca, qui disait qu'il fallait revoir un certain nombre de critères. Et ce matin, on va en parler avec Dr. Martin Champagne, qui est le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Dr. Champagne, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Je vais vous faire entendre un extrait de l'échange qu'on a eu hier matin avec Dr. Jonca, là, qui dit qu'il y a un débat à faire puis qu'il faut mettre quand même sur la table un certain nombre de questions. On va l'écouter.
Est-ce que les cardiologues qui font des angioplasties, en sachant que si ça marche pas, ils ont un chirurgien pour le backup? Si ça tourne à la catastrophe, est-ce que le geste qu'ils posent, ils devraient peut-être se réserver de le poser? Vous voyez, ça va jusqu'à là. Quand on parle de chirurgie cardiaque, là, ça touche les motifs, là. C'est le cas de le dire.
Ben, les cancers aussi, là, c'est clair.
Ouais, exact. Les cancers aussi. Il faut qu'il y ait de l'objectif, là. C'est bien facile à dire, on va vous traiter pour votre cancer, on va vous donner un traitement qui vaut des milliers de dollars pour vous prolonger d'un mois, là. Est-ce que c'est vraiment pertinent?
C'est le docteur Jean-François Jonca de l'Association d'orthopédie du Québec. Docteur Champagne, vous en pensez quoi?
Ben, en fait, les propos du docteur Jonca illustrent les limites du système tel qu'on l'administre puis tel qu'on l'a toujours administré. La COVID nous a poussé, comme vous l'avez mentionné, dans nos derniers retranchements, pénurie de personnel, pénurie de lits, aucune capacité hospitalière. Ce qui fait que l'orthopédiste est confronté à une liste d'attente de patients qui doivent prendre de la morphine ou des opiacés, donc des médicaments puissants pour enlever la douleur, qui sont limités dans leurs activités quotidiennes. Le chirurgien ORL attend de pouvoir installer des tubes dans les tympans de jeunes enfants qui ont des difficultés scolaires puis pour qui l'audition, restaurer l'audition est une priorité. Et nous, en cancérologie, on se rappelle que le cancer est quand même la cause de mortalité numéro un au Québec. On se bat contre la montre, d'une certaine façon, puisque chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, ou un patient est sur une liste d'attente, ben il y a un risque que le cancer se propage, donc et compromette les chances, donc la survie de ce patient-là en bout de ligne.
Alors, mais juste que ça soit peut-être un petit peu plus clair, là, je comprends ce que vous dites, que des gens qui ont un diagnostic de cancer et il faut les traiter et tout ça. Docteur Jonca donnait comme exemple un traitement coûteux qu'on administre à quelqu'un pour le prolonger peut-être de un mois, six semaines. Il se dit, est-ce que c'est nécessaire de faire ça?
Ben là, écoutez, là, certainement qu'on a mis en place toutes sortes de mécanismes. Par exemple, en cancérologie, c'est vrai que les traitements sont coûteux, mais les patients sont discutés dans des ce qu'on appelle des comités de diagnostic et thérapie du cancer, des CDTC, comités de tumeurs, par plusieurs spécialistes, chirurgiens, oncologues, radio-oncologues. Et les patients sont présentés. Alors, il n'y a pas de traitement farfelu. On choisit quelle est la meilleure priorité. On regarde les alternatives de traitement. Et je peux vous dire que dans les deux dernières années, on a évoqué plusieurs traitements alternatifs aux chirurgies pour diminuer la pression sur la chirurgie. Par exemple, il y a des patients qui se sont fait offrir des thérapies qu'on appelle néoadjuvantes, donc un traitement de chimiothérapie ou immunothérapie, en attendant pour temporiser l'accessibilité à la salle d'opération, ou qui se sont vus offrir des traitements de radiothérapie au lieu d'une chirurgie. Donc, tout ça, c'est pas... Je pense pas qu'il y ait rien de farfelu qui existe.
Mais sans que ça soit farfelu, est-ce que parfois, il y a pas... Puis là, je vais peser mes mots, là, mais une forme d'acharnement de dire à un patient, on va faire tel traitement, mais c'est un traitement qui va pas te sauver la vie, là. C'est un traitement qui va peut-être te prolonger d'un mois, deux mois. C'est un peu ça, oui.
Il y a des cancers très agressifs pour lesquels, effectivement, le bénéfice de traitement est plus limité. Mais si vous prenez les cancers les plus communs, cancer du côlon métastatique, la survie avec les thérapies approche près de 3 ans. Même chose avec le cancer du sein métastatique, là. Donc, c'est des maladies très avancées qu'on ne peut pas guérir. Le cancer du poumon qui était métastatique, qui était toujours létal dans le passé, 15%, donc un patient sur 6 survit à 5 ans maintenant avec les traitements d'immunothérapie. Alors, est-ce que c'est trop agressif? Je pense que c'est un... Je pense que par rapport à d'autres traitements, on est très bien encadré. Les mécanismes d'approbation des médicaments par le gouvernement font en sorte qu'on évalue non seulement le gain ou l'efficacité du traitement, mais aussi son rapport, je dirais, coût-bénéfice. On traite pas un patient pour lequel un traitement de chimiothérapie quelconque donnerait un bénéfice de quelques semaines ou quelques jours. Ça, okay. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas.
OK. L'autre chose, je veux savoir si ça arrive ou pas, parce qu'on me parle, et Dr Jonca en parlait, là, de patients qui sont, pour ainsi dire, en fin de vie. Et là, c'est très délicat comme question. C'est un débat extrêmement sensible. Est-ce qu'on est porté à offrir des traitements, voire même opérer un patient qui est en fin de vie, plutôt que lui offrir des soins de confort? Moi, je pensais qu'il y avait comme une absence là, d'acharnement chez des gens. Là. Est-ce qu'on va traiter un cancer de quelqu'un qui a 88 ans, par exemple?
Ben, il y a des patients, j'ai un patient qui m'avait été référé, que j'ai bien en tête, qui avait 92 ans, avec des métastases au niveau du foie. Quand le patient est arrivé dans mon bureau, il courait 30 minutes tous les matins, il faisait 45 minutes de natation, puis donc c'était un type hyper en forme, ce patient-là. Donc l'âge n'est pas un critère pour traiter un patient. C'est vraiment la présence ou l'absence de comorbidité. Et il y a des traitements qui sont adaptés à toutes sortes de situations. Donc, le but de la chimiothérapie, si on prend la chimiothérapie ou de l'immunothérapie, c'est deux ordres. C'est d'améliorer la qualité de vie d'un patient, d'une part, puis quand on est dans une phase de maladie métastatique, de lui donner plus de temps. Mon devoir comme médecin, c'est d'exposer le patient au choix qui s'offre à lui et de l'accompagner dans son choix. Donc, le patient peut me dire, moi, je préfère, dans ces circonstances-là, ne pas prendre un traitement, comme il peut dire, ben moi, je suis en à aller de l'avant avec le traitement parce que j'ai un baptême ou des noces dans quelques semaines et je souhaite donc aller avec le traitement. Donc, on donne des choses probantes, puis on peut pas deviner si un traitement est efficace chez un patient en particulier. Alors, donc, pour ça, c'est d'accompagner le patient dans son choix, puis je pense que la plupart des gens, en fait, notre entraînement, notre formation nous permet de voir avec le patient de façon ponctuelle quels sont les effets secondaires qui ont été rencontrés, puis quels sont les bénéfices qu'on attend. Donc, on monitore les patients à tout bout de champ, on rencontre les patients fréquemment.
Mais je donne un exemple. J'ai reçu des courriels d'infirmières qui travaillent dans les blocs opératoires. Puis là, vous allez me dire, c'est de l'anecdote, puis probablement que vous avez raison, là, mais quand elles m'écrivent qu'ils ont l'impression de voir que des patients pratiquement en fin de vie, puis qui se demandent pourquoi ils sont opérés. Je comprends si la personne est en santé, je comprends tout ça, mais je vais vous poser la question autrement. Comment on fait pour passer des genoux à travers tout ça, puis passer des hanches à travers tout ça?
Bon, alors, présentement, la façon de faire qu'on avait antérieurement, c'est qu'à chaque chirurgien appartient une journée opératoire et le chirurgien décide de ses propres priorités dans sa liste. Il a été formé pendant la COVID des comités opératoires interdisciplinaires, donc le chirurgien ORL qui est assis avec le chirurgien urologue qui est à chirurgie avec le chirurgien thoracique et le chirurgien orthopédique. Et à ce moment-là, ces comités-là ont fait des listes de priorités et d'évaluation des patients. Il y a des éléments qui sont vraiment objectifs à ça. Il y a des éléments qui sont peut-être de nature plus subjective. Mais au total, je pense que ces comités de sages ou de pairs permettent donc de prioriser les patients pour lesquels le bénéfice va être le plus important. Alors, oui, est-ce qu'on est dans le domaine de l'anecdote possible? Mais certainement qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour donc atténuer le risque de l'arbitraire là-dedans.
Mais dans les faits, les cas d'orthopédie, là, de façon générale, vont passer en dernier.
Ben, en fait, je suis pas d'accord avec ça, si vous voulez. Dr Jonca nous dit qu'il y a 4000 patients de plus en attente en orthopédie par rapport à ce qu'on avait avant la COVID. Ce qui fait que, quand on regarde ce genre de choses-là, c'est que ça fait quelques dizaines de patients de plus par orthopédiste sur leur liste d'attente. La réalité des choses, c'est que, présentement, Dr Jonca, par exemple, pour les mois de janvier et février, aura eu au total 4 journées opératoires. ces journées-là opératoires, évidemment, il n'y a pas juste des hanches, des changements de hanches ou de genoux. Il y a d'autres chirurgies orthopédiques qui doivent être faites. Et en bout de ligne, c'est qu'il va faire peut-être un patient, un changement de prothèse de hanche par journée opératoire, peut-être deux si c'est chanceux.
OK, juste comprendre vos chiffres, vous me dites que sur 2 mois, il y a 4 jours?
4 jours de chirurgie qui lui ont été accordés.
Hey, c'est alors, pas gros, ça, sur
ben,
deux
c'est
mois?
C'est pas gros. Donc, vous comprenez que même si la liste d'attente du docteur Jonca a monté, disons, de 40 patients et qu'il a opéré à la fin de 2 mois 4 patients, il ne voit pas le jour où il va avoir récupéré sa liste d'attente. Et par-dessus ça, il s'est rajouté des patients entre-temps. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on voit, là, c'est que ça va prendre des investissements importants, tant en ressources qu'en technologie. Il existe la possibilité, par exemple, de faire chirurgies de la hanche en chirurgie d'un jour. Je ne suis pas un spécialiste de la hanche, mais est-ce qu'on a vraiment déployé l'ensemble de ces ressources-là? On a parlé beaucoup des chirurgies qui se faisaient dans les CMS. Les CMS, donc, c'est de sortir des patients qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés pour les faire en chirurgie d'un jour à l'extérieur. Présentement, les CMS ne sont pas équipés des microscopes pour la chirurgie ORL et faire des méringotomies, mettre des tubes dans les oreilles des enfants. Pourquoi faire ça simplement à l'hôpital? Alors, puis, si on fait des chirurgies d'un jour, si on a réussi à augmenter le nombre de chirurgies d'un jour, je reprends la hanche encore comme exemple, bien, ça va prendre des soins à domicile pour faire le suivi de ces patients-là. Donc, ça prend une préparation. Alors, est-ce qu'on a vraiment investi toutes les ressources?
Ça va prendre, Dr Champagne, ça va prendre plus qu'une refondation du système, là.
Mais il faut penser, écoutez, en 2 mois, le système de santé est parti de tests centralisés. Les PCR étaient faits de façon très centralisée et on a réussi à décentraliser donc les tests de PCR. Chaque unité de soins, chaque établissement pouvait faire les PCR. En 2 mois, on a été capable de trouver les ressources, d'investir les ressources et d'assurer donc que chaque hôpital puisse faire les tests très rapidement. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut envisager dans les prochains mois, c'est le même genre d'investissement qui est primordial, donc pour s'assurer qu'on réponde aux besoins, parce que c'est un drame, le patient en attente de chirurgie du genou ou de la hanche, l'enfant qui entend mal et qui est en difficulté scolaire, qui a besoin de tube de Miringo, et le patient avec cancer, ce sont 3 catégories de drames différentes, 3 réalités. Oui, il y en a un pour lequel le compromis vital est engagé, celui qui a le cancer, puis il peut pas se permettre d'attendre, mais c'est qu'on continue de penser dans l'ancien modèle si on voit que ces patients-là sont en compétition les uns avec les autres. Ce qu'il faut trouver, c'est des solutions qui permettent donc d'accélérer la cadence, et ça prend des ressources humaines, des ressources matérielles, et arrêter de penser comme on le faisait avec une chirurgie donc qui appartient à chaque chirurgien, un temps opératoire qui appartient à chaque chirurgien. Il faut travailler de façon collégiale.
Okay. Merci beaucoup, Dr Champagne. Bonne journée.
Bonne journée, monsieur.
Au revoir. Dr Martin Champagne est le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Je vois vos courriels entrer. C'est tout un débat. Puis il y a des gens qui attendent pour une opération de qualité de vie, là. C'est-à-dire, puis quand je dis qualité de vie, c'est très large. Des gens qui ont de la misère à marcher, des gens qui ont de la misère à monter des marches, des gens qui sont en attente d'un retour au travail et qui sont sur cette fameuse liste. Quand vous dites qu'un chirurgien a 4 jours pour opérer des patients sur 2 mois, ça peut bien prendre du temps. Puis je suis d'accord qu'on ne peut pas mettre en compétition des patients. Mais quand vient le moment de faire les choix, de prendre les ressources disponibles, ben c'est sûr que il y a peut-être des gens qui passent avant pour toutes sortes de bonnes raisons. Puis je le vois, c'est très émotif, là. Il y a des gens qui m'écrivent en disant « J'ai payé des taxes toute ma vie, puis je veux avoir droit au maximum des traitements, puis c'est pas vrai que... » Puis il y en a d'autres qui me disent « Ma grand-mère avait 92 ans, ils l'ont opérée, puis elle est morte 5 semaines après. » Pas un débat facile, mais c'est un débat qu'il faut faire quand même.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, le président Biden a été très clair. L'invasion de l'Ukraine est déjà commencée. S'en est suivi donc l'annonce de sanctions économiques. On a vu le Canada également prendre position. Le Japon a aussi suivi et l'Australie au cours des dernières heures. On va regarder tout ça avec Jean-François Lépine. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
Alors donc, c'est l'arme économique qu'on utilise en premier.
Ouais, puis M. Biden a fait cette déclaration en « Que peut bien penser Poutine en reconnaissant 2 nouveaux pays dans un pays qu'il ne contrôle même pas? » Alors c'est un peu la situation absurde dans laquelle on est. Puis la grande question d'aujourd'hui, c'est, on les a vus là, hier, toutes les sanctions qui ont été annoncées, beaucoup de sanctions dans le secteur financier pour essayer de bloquer l'économie russe. La grande question d'aujourd'hui, ça sera, quel va être l'effet de ces sanctions-là? Est-ce que ça va arrêter quelque chose? Alors, ce qu'on observe, c'est aussi que Washington annonce des renforts, entre autres dans les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie. Si nos auditeurs regardent la carte, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que c'est trois petits pays le long de la mer Baltique qui sont coincés entre la Russie et la Biélorussie, le Bélarus, où il y a des troupes massées là. Il pourrait y avoir là aussi, c'est des pays qui ont très peu de forces militaires, où il y a des troupes de l'OTAN. Donc, c'est là aussi un autre secteur là, dont on n'avait pas beaucoup parlé, mais M. Biden en a parlé hier. Tout en disant, on envoie des renforts dans ces pays-là, il dit, nous ne voulons pas la guerre. On voit là la contradiction des pays européens et des États-Unis qui ne veulent pas aller en guerre, absolument. Donc, ils essaient une série de mesures économiques dont on ne sait pas quelle va être la portée. Puis, tu l'as évoqué, Poutine a réagi en disant, écoutez, on est ouvert au dialogue, mais notre sécurité ne sera jamais négociable. Puis, entre-temps, on fait confiance à nos militaires. Donc, on est au sommet de la tension.
Et sur le terrain, quelle est la situation?
Ben, c'est ça qui est pas clair là pour l'instant. Il y a nos journalistes sur place, les gens qui sont sur place nous montrent des images. Il y a des mouvements de troupes russes vers les deux zones là, qui ont été reconnues officiellement par les Russes avant-hier. Donc, il y a des mouvements, mais qui sont pas massifs. Donc, on se demande, encore une fois, où est-ce que tout ça s'en va. L'Ukraine, entre-temps, le président Zelensky a annoncé hier pardon, qu'il mobilisait ses réservistes. Ça, c'est les gens qui ne sont pas dans l'armée active et qui sont dans des soldats en réserve. On n'est pas encore à la mobilisation générale qu'il avait évoquée dans le passé, mais la tension monte. Et puis, il a dit une chose qui est un peu, qui fait partie de la propagande de guerre. Il a invité les Ukrainiens de Russie à rentrer au pays. Alors ça, ça veut dire, vous êtes menacés de représailles si la guerre commence, vous devez rentrer et tout ça, mais il faut dire que depuis des années et des années, entre autres depuis l'invasion de la Crimée en 2014, les Ukrainiens des deux côtés de la frontière sont coincés dans des conflits qui se multiplient et ils sont habitués à cette situation-là. C'est très difficile pour eux, mais je pense pas qu'il y ait question de retour massif des Ukrainiens qui sont en Russie vers l'Ukraine. Et puis, une chose qui est importante aussi, c'est l'OTAN et la Pologne se préparent. La Pologne, c'est à l'ouest de l'Ukraine, se prépare à recevoir des réfugiés. Si jamais il y a des combats majeurs en Ukraine, ben les Ukrainiens vont vouloir peut-être sortir et la Pologne pourrait être un endroit, c'est un pays voisin qui recueillerait énormément de réfugiés ukrainiens.
Bon, on a vu que la Chine a dénoncé les sanctions économiques. Il y a beaucoup d'auditeurs qui se demandent est-ce que la Chine peut justement aider la Russie à résister donc à l'arme économique des pays alliés?
Oui, ça c'est vrai. Depuis, entre autres, les sanctions économiques que les pays alliés avaient mis imposées à la Russie après l'invasion de la Crimée en 2014, l'économie de la Russie s'est d'abord retournée sur elle-même, mais aussi a profité de cet immense marché voisin, la Chine. Donc, il y a des échanges économiques de plus en plus importants de ce côté-là. Mais il faut faire attention. Les Chinois sont un peu embêtés par cette situation-là, parce que tout en condamnant les sanctions hier, les Chinois, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dit, écoutez, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'appui aux gestes posés par la Russie, et surtout pas de reconnaissance des deux nouvelles régions que la Russie vient de reconnaître officiellement. Pourquoi? Parce que traditionnellement, c'est une politique très ferme de la Chine. La Chine n'intervient pas dans les affaires internes des autres pays. Donc, pas d'appui ouvert à la Russie, mais condamnation des sanctions parce que la Chine dit, écoutez, de façon réaliste, là, tout le monde va souffrir de ça. Et les Russes vont s'en sortir malgré tout. Ils sont habitués et donc ça n'a pas d'effet. Donc, on condamne ça parce que la Chine a très peur, je voulais souvent rappelé, la Chine a des velléités sur la petite île de Taïwan, dont elle dit qu'elle fait partie intégrante de la Chine, mais qui est un pays qui se veut indépendant. Et la Chine protège ses arrières et a peur à d'éventuelles réactions advenant le cas où elle s'intéresserait de trop près à l'intégration de la réintégration de Taïwan au sein de la Chine.
Bon, la grande question, bien sûr, et selon ton expérience, est-ce que les sanctions vont fonctionner? Est-ce que ça va avoir un effet dissuasif?
Ouais, ça, c'est la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, parce que ça peut être à double tranchant, cette situation-là. Alors, je l'ai dit, la Russie, c'est quand même la 12e économie au monde, même si c'est derrière l'Italie, le Brésil ou des pays comme ça, c'est quand même une économie encore importante. Les sanctions ont été relativement contournées, même si les sanctions passées, même si l'économie russe ne va pas bien. Hein, il y a même une récession importante en Russie. Il faut rappeler que les citoyens russes, dans les sondages qu'on connaît, ne sont pas pour la guerre. Ça, c'est important aussi parce qu'eux autres, ils vont en subir, ils vont être les premiers à en subir les conséquences de ces sanctions économiques-là. Le problème, c'est, et le président Biden l'a souligné hier, il a averti les Américains, pour les Américains, le prix de l'essence, c'est quelque chose de fondamental. Il leur a dit, le prix de l'essence va monter. Ça veut dire que ces sanctions-là, elles vont faire mal à tout le monde. On mobilise le système bancaire pour boycotter l'économie russe, ben le système bancaire international va en souffrir à son tour. Et même M. Poutine l'a dit hier dans son intervention après celle de M. Biden. Donc, on voit que tout le monde s'inquiète des deux côtés. On impose des sanctions, mais on sait qu'on va en souffrir aussi. Les marchés financiers sont très, très volatiles et très inquiets aussi de cette situation-là. Alors, il y a beaucoup de doutes sur l'effet des sanctions. Le problème, encore une fois, c'est que nous ne voulons pas aller en guerre. Les Russes le savent. On impose des sanctions, puis on se demande si ça va avoir de l'effet. Et on a tellement de doutes qu'on a entendu hier autant Boris Johnson que M. Biden dire « Il y aura d'autres tranches, ne vous en faites pas ». Ça veut dire que on va voir l'effet de ce qu'on vient d'annoncer. Il y a des démonstrations qui vont devoir être faites de l'efficacité ou non. Puis après ça, on va passer à autre chose. Ça pourrait être d'autres tranches, mais est-ce que ça aura de l'effet?
Merci beaucoup. Bonne journée, Jean-François.
Merci.
Au revoir, Jean-François Lépine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Très bien. Le remplacement de la toiture du Stade olympique est repoussé dans le temps. On l'a vu, c'est un projet qui n'est pas facile à ficeler, de toute évidence. On pense que ça pourrait coûter 200-250 millions. Alors, faisons la lumière là-dessus ce matin avec Michel Labrec, le président de tout ce complexe olympique. Monsieur Labrec, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, d'abord, est-ce que c'est vrai que les travaux sont repoussés à plus tard là, pour changer la toile?
Oui, c'est tout à fait ça. Écoutez, c'est complexe scientifiquement, techniquement. Et puis en matière d'approvisionnement, on a donc eu une étape qui était qui se qualifie, qui à l'international peut se qualifier. Il y a eu un seul groupe qui a déposé sa candidature, composé entre autres du groupe Pomerleau, Canham, Walter P. Moore. Et puis là, donc, on a dû demander au gouvernement, ben comme il n'a juste un, est-ce qu'on peut entreprendre avec eux des négociations pour une proposition? Et là, on est dans cette étape-là de proposition avec, bien évidemment, un concept de référence. Les gens peuvent aller sur le site du Parc olympique. Il y a un micro-site juste pour la toiture où on explique toutes les étapes puis on a montré quel était le concept de référence. Comme je l'ai expliqué souvent, non, c'est pas une montgolfière pour boucher un trou là, faut que ça respecte un peu l'architecture. La particularité du toit du stade, c'est qu'il est supporté par la tour, pas par les consoles, donc les câbles qui sont dans la tour, c'est ça qui supporte.
Mais la question qui est qu'on a là, qui va être très imagée, la firme, la seule qui a de l'intérêt.
Le groupe, oui.
Oui, c'est ça, le consortium. Est-ce qu'ils savent quoi faire?
Oui, ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire, mais bien évidemment, il y a des discussions, des négociations dans un contexte, de surchauffe ou d'effervescence. Si vous lisez les médias internationaux, là, partout, il y a des contrats qui se donnent en construction. Les matériaux augmentent. On a un concept de référence. Donc, nous, les discussions d'atelier là, sont avec eux sur le concept que vous proposez. Ce qu'on a, il y a des écarts. Fait que les discussions portent là-dessus. Ils nous ont demandé plus de temps. J'ai répété, je sais pas combien de fois, on n'est pas 6 mois, 1 an, 2 ans. On a besoin d'une toiture fiable qui fait la job d'un toit. C'est-à-dire que quand il neige, on se met pas les 2 mains par-dessus en se disant on annule. Conséquemment, on est extrêmement précautionneux. Il y en a 2 qui ont pas marché. Et la première de Kevlar qui déchirait, la deuxième Bird Air, même pas passé au travers du premier hiver. Le secrétaire général du gouvernement m'avait demandé, Michel, le stade, est-tu bon? On met-tu un toit sur quelque chose qui est plus bon? Le stade est en très bonne santé. Les structures de béton, la tour, tout ça, il a fallu l'évaluer. Après, il a fallu faire des calculs. Quelles sont les charges que ça peut porter, tout ça? Fait que là, il y a des firmes d'ingénieurs, des calculs, des experts internationaux, ça nous prend un consensus, c'est quoi? Troisièmement, il y a des nouvelles normes. Le stade a été construit en 76 sur le code du bâtiment de l'époque. Il y a un nouveau code du bâtiment en 2015. C'est plus les mêmes charges. Fait que donc, on est dans ça. C'est compliqué.
Mais là,
ça avance.
On regarde ça, nous autres, puis on se tape un peu, là. Un seul consortium.
Oui.
Il y a une course à la main-d'œuvre, il y a une course aux matières premières partout dans le monde, la chaîne d'approvisionnement. Là, on dit, ça va coûter combien au final?
Madame Normandeau, hier, elle disait, écoutez, de toute façon, moi, je n'ai jamais parlé de prix. Le Parc olympique n'a jamais parlé de prix. Vous avez essayé de toutes les façons de me dire combien ça va coûter. C'est-tu l'équivalent de la peinture du pont de Québec? Je n'ai jamais, jamais parlé de prix. C'est clair?
Parlons pas de prix, mais disons, est-ce que ça va finir par se flamber, cette affaire-là?
C'est pas donné. Ça sera pas donné. Le parc, il est payé. Les gaz à effet de serre sont dedans. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une sculpture architecturale dans le paysage. Puis, moderniser, vous avez pas idée de ce que ça peut devenir. Conséquemment, il vaut 5,5 milliards en dollars d'aujourd'hui. Ça sera pas donné. On n'annoncera pas de prix parce qu'il y a des discussions présentement. On négociera pas sur la place publique. Mais les prix qui ont circulé... C'est sûr, basé sur une annonce d'une ministre, bien évidemment, d'un ordre de grandeur, puis 2 toitures qui n'ont pas marché dans le passé.
Elle est dans quel état, la toile, aujourd'hui?
La toile, ben, elle est grevée de milliers de trous, vérolés.
Mais est-ce que ça se détériore tout le temps?
Si vous suivez le graphique qu'on publie tous les ans, hein, dans notre rapport annuel, ben, il y a des plus de... Au cumul, oui, mais il y a des années, ça varie. Est-ce que c'est la glace? Est-ce que c'est des chutes de glace de la tour puis des câbles? Est-ce que c'est les effets de la pollution qui fait que quand on regarde la toile puis on se promène dessus, il y a des traces noires qui sont là puis qui perforent avec l'équipe qui l'entretient. Mais quand on met des rustines qui sont thermosoudées, ben ça la tient correctement. On va devoir la démonter un jour. Il n'y a pas de panique. Bien évidemment, hier, la décision de l'équipe, là, c'est pas moi qui participe à ça, c'était la bonne. Il y avait plus que 3 mm de verglas. On reporte le match, c'est un rain check. Puis, il y a lieu aujourd'hui. Il y a des matchs qui s'en viennent, puis on vit dans ça. Puis
mais sans aller encore là dans tous les détails, je comprends, là, mais est-ce qu'il y a... T'sais, le pont Champlain, à un moment donné, là, ils ont dit, si vous ne faites pas un nouveau pont, là, il va finir par être dangereux. Est-ce que la toile, vous avez un échéancier, vous avez beau réparer tout... Mais...
Elle est monitorée tous les jours.
Okay.
On a un architecte, un ingénieur en structure, elle est monitorée tous les jours, la toile est monitorée, au pire, des panneaux complets vont déchirer, puis on les remplacera. La structure sous-jacente, elle a ses défauts, hein, parce qu'elle crée des vallées de neige qui s'accumulent ou d'eau, mais... On me dit pas, les ingénieurs nous disent pas à ce jour-là, vous devez la démonter, puis vous devez hiverner le stade, on n'en est pas là. Donc, le temps file, on le voit avancer, elle a 22 ans, elle avait une durée de vie utile à l'origine de 20 ans sans déchirure. Mmh. Ça s'en vient, mais je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet.
Prenons quelques secondes ce matin parce que mes amis, les commissaires, Mme Normandeau, M. Ferrandez, sont rendus et Luc était dithyrambique sur tout le complexe. On parle du stade, là, mais c'est évidemment plus large.
Ah, c'est bien plus large que ça.
L'esplanade et tout ça.
Ils sont allés dans le quartier olympique, Marie-Victorin, le parc Maisonneuve, la Cité-Jardin du 300e anniversaire. C'est 150 ans d'aménagement de territoire, ça. Si on prend l'ensemble, là, qui va de Rosemont à Pierre-de-Coubertin, de Pinneuf à Viau.
C'est quoi les projets que vous avez dans les cartons là pour le développement, pour encore faire flipper mon ami Luc?
Ben, j'ai planté, lorsqu'il était élu, le millième arbre avec lui. Donc, il y a des petits projets, mais extrêmement importants pour les citoyens. On a refait toute la côte Morgan, sur lequel il y a un parc à planches à neige cet hiver. On refait, la STM a terminé la station de métro Viau, donc on refait un grand parc à l'entrée jusqu'au planétarium, puis au biodôme, puis à la tour. Les travaux vont commencer ce printemps. Pierre-de-Coubertin, c'est la ville, se refait une beauté complète. Les deux stations de métro seront font une beauté complète avec des ascenseurs. Le SRB P9 s'en vient, inauguration. C'est moi qui avais signé le projet en 2009. Et on nous dit 2022, fin 2022, début 2023. Il y a des projets que je ne peux pas vous dire, mais qui vont être annoncés dans les mois à venir. Des projets privés qui sont sur des lots qui appartiennent à des propriétaires privés sur le quadrilatère. Il y a l'insectarium qui s'est refait une beauté, qui va être inauguré au printemps. Le biodôme s'est refait une beauté. On refait l'ensemble de l'observatoire parce que comme il n'y avait plus de touristes à Montréal, on a fermé. Donc, le funiculaire est remplacé, l'observatoire est remplacé. Il va y avoir une passerelle vertigineuse autour. Puis dans le stade, quand le gouvernement nous a autorisé à aller en dossier d'affaires, et puis Madame Proulx, pour ça, elle l'aime, elle a travaillé avec Louis-Paul Allard, puis tout ça, elle était dans le quartier, elle aime le sport, elle vient voir les chantiers, elle suit, elle fait les ateliers techniques avec nous autres. Fait que, c'est pas pour porter ombrage aux autres ministres qui ont aidé le parc, là, mais elle nous a doté une nouvelle loi très, très dynamique. Fait que là, donc, on refait l'observatoire, puis il y a des projets qui s'en viennent, et dans le stade, ce qu'ils nous ont demandé, une fois qu'on a mis le toit, c'est quoi l'ordre de marche des 5 à 10 années suivantes pour acoustique, sonorisation, éclairage, modification de l'angle des gradins. Puis, on travaille très étroitement avec le club de football Montréal de M. Saputo. Les Alouettes sont rendues toutes chez nous, c'est-à-dire leur bureau administratif qui était au centre-ville s'est rendu chez nous. Fait, les esplanades, on a fait un plan chaudrome avec Vans, commandité pour des compétitions internationales. Donc, c'est des projets tantôt petits. Puis quand on va rentrer dans le stade en remplaçant la toiture, c'est des projets majeurs. Le stade, il est bon pour 50 ans. Moi,
j'ai même pas besoin de vous poser des questions sur un stade au centre-ville le matin, c'est pas pire. Il est rendu sur la glace pas mal.
Je dirais Schadenfreude en allemand.
Qui veut dire?
Je laisse le... C'est un... Faut pas se réjouir du malheur des autres.
Michel Labrec, merci beaucoup d'être venu.
Merci, M. Allier.
Michel Labrec, qui est le grand patron de tout ce carrefour olympique à Montréal.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, depuis quoi? Plus de 24 heures, on ne parle que du plan qui a finalement été confirmé dans la journée du retrait du masque obligatoire pour les élèves du primaire et du secondaire après la semaine de relâche, donc à partir du 7 mars. Pour les autres qui sont en relâche, ben ce sera au retour, évidemment. Et tout ça pour, évidemment, s'inscrire dans un plan plus vaste d'assouplissement qu'on voit depuis quelques semaines. Et on voit ces annonces qui se font jour en jour. Maintenant, il y a des scientifiques qui sont pas tout à fait d'accord et même qui sont inquiets, qui trouvent ça précipité, qu'on aurait dû attendre quelques semaines avant de permettre, par exemple, aux enfants des écoles primaires puis aux ados de retirer le masque. André Veillette est avec nous, Dr. André Veillette, qui est immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal et qui fait partie du groupe de travail sur la vaccination contre la COVID. Dr. Veillette, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Est-ce que je comprends que ça vous inquiète, cette décision-là? Vous trouvez que ça va un peu vite?
Eh oui, oui, je pense que ça va encore un peu vite. Faut pas oublier là qu'on a quand même pas mal beaucoup de cas. Je pense qu'il y avait des données de Cyrano là qui suggéraient qu'on a encore au-dessus de 20 000 cas par jour ces jours-ci, avec pas loin d'une centaine d'hospitalisations, des gens qui vont aux soins intensifs, des gens qui décèdent. Puis évidemment, un virus qui est très contagieux avec un variant de ce variant-là, qui est le BA.2 dont on parle récemment. Alors, on sait pas trop ce que ça va avoir comme impact, ça. Alors, je pense que c'est correct de déconfiner parce que les cas diminuent, mais je pense qu'il faut le faire au compte-gouttes. Il faut pas aller trop vite. Puis je pense que la décision au niveau des restaurants, des gyms, bon, je la comprends. Il faut planifier d'avance, faut que les gens le savent. Mais pour ce qui est des écoles, surtout quand on parle finalement d'enlever une mesure, le masque, où t'as pas besoin de te préparer pendant deux semaines, je pense que c'est un peu trop prématuré. Alors moi, j'aurais été un peu plus prudent que ça.
OK. Vous avez dit, là, sauf erreur, que pour vous, c'est une décision davantage politique que scientifique.
Oui. Oui, oui, c'est certain. Écoutez, c'est sûr qu'il y a de la pression. Scientifiquement, donc, pour moi, c'est simple. On devrait attendre que les cas baissent et encore beaucoup plus là avant de permettre aux gens d'enlever les enfants puis les adolescents d'enlever leur masque dans les écoles, parce qu'il y a quand même de la transmission dans les écoles. Mais c'est surtout, il y a aussi, il faut pas oublier qu'il y a quand même une dimension politique à ça. On voit dans d'autres pays comme le Danemark, d'autres provinces au Canada, aux États-Unis, où les gens enlèvent les masques puis déconfinent très rapidement. Alors, c'est sûr qu'il y a une pression de faire ça aussi au Québec. Il y avait l'opposition du gouvernement aussi qui insistait pour qu'il y ait un plan puis que le public soit informé du plan. Alors, c'est sûr qu'il y a des pressions politiques pour le faire, mais si on regarde d'un point de vue purement scientifique, je pense que c'est vraiment un peu trop vite, surtout pour les masques dans les écoles, pour moi.
Mais, Dr Veillette, moi, je parle avec d'autres scientifiques qui disent dans ce qu'on appelle l'équilibre entre le danger, le risque, l'inconvénient et l'avantage, on est peut-être rendu là, que beaucoup d'enfants ont été contaminés durant la période des fêtes. La vaccination a bien marché chez les ados. La troisième dose, c'est vrai, il y a du retard peut-être, ou en tout cas moins d'intérêt. Ouais. Mais que globalement, la société québécoise, sur le plan de l'immunité, est quand même pas mal.
Oui, c'est vrai qu'on a bien fait, mais comme vous dites, il y a quand même un délai au niveau des troisièmes doses chez les adolescents ou les ados, puis les jeunes, évidemment, deuxième dose aussi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas été infectés. On entend tous les jours des nouvelles personnes qui sont infectées. Je veux dire, il y en a 24 000 par jour. Alors, certainement qu'il y a des enfants là-dedans. Je ne dis pas de garder le masque ad vitam aeternam jusqu'à la fin de l'été, mais je pense qu'on n'est pas obligé de précipiter ça d'ici deux semaines, alors qu'il y a encore beaucoup de cas. On pourrait attendre une couple de semaines, voir ce qui se passe. On sait aussi que la rentrée, la semaine de relâche, c'est quand même un moment... fatidique, hein, qui a été fatidique au Québec quand on pense à la première vague où on la blâme en partie pour la première vague massive qu'on a eue au début de 2020. Alors, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller trop vite. Je comprends que les gens ont besoin d'informations, ont besoin de planifier, mais pour ce qui est d'enlever les masques dans les écoles, je suis pas sûr qu'on a besoin de beaucoup de planification. Deux semaines de plus, je pense pas que ça va changer beaucoup si on retarde ça de deux semaines, je pense pas que ça va changer beaucoup au développement des étudiants, des écoliers.
OK, vous, votre calendrier, ça aurait été quoi? Fin mars, début avril?
Ben moi, je regarderais l'épidémiologie. Alors, disons que je vais vous donner un cas extrême. Alors, si, disons, la semaine prochaine, tout d'un coup, les cas se mettent à augmenter à cause de BA.2, ben évidemment, j'attendrais. Si les cas soudainement se mettent à baisser en chute libre d'ici deux semaines, ben là, on pourrait le faire dans deux semaines. Mais si dans deux semaines, on est encore plus ou moins au même point qu'aujourd'hui avec une petite diminution, parce que la diminution est quand même assez lente ces jours-ci, ben à ce moment-là, j'attendrai une couple de semaines, j'attendrai pour voir. C'est sûr qu'il n'y a rien de scientifique à savoir quand est-ce qu'on enlève les masques, mais je le ferai là, de façon prudente, puis je regarderai ce qui se passe. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage qu'on dit deux semaines d'avance ce qu'on va faire, alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui va arriver dans deux semaines.
OK. Et pour ce qui est du passeport vaccinal, c'est pas comme un masque. Il va être levé le 14 mars prochain. Oui. Donc, vous en pensez quoi de ça?
Ben, je ferai le même commentaire. Moi, je pense qu'il y a encore une utilité, ce passeport vaccinal-là. C'est dur de le démontrer scientifiquement parce qu'on n'a pas fait des études contrôlées avec un groupe qui l'a puis un groupe qui ne l'a pas. Mais je pense que ça a certainement eu une utilité. Il ne faut pas oublier que les vaccins, bon, ils sont surtout efficaces contre les maladies sévères qui mènent aux hospitalisations, mais ils sont quand même aussi efficaces pour diminuer les risques d'infection légère et la transmission. Les gens disent que c'est pas le cas, mais c'est le cas. Il y a vraiment une diminution des infections légères et de la transmission avec le vaccin, même dans le cas de Micron. Alors, je pense qu'il y a son utilité. Puis tant que tout le monde n'est pas complètement vacciné, il y a toujours un risque que les gens non vaccinés vont se faire infecter par les vaccinés et vice-versa.
Ça va être à suivre parce que c'est une combinaison, là, c'est-à-dire fin de la semaine de relâche, retour à l'école. On n'est pas encore dans des périodes là, où on peut ouvrir facilement les fenêtres tout le temps là, pour... Fait que vous, vous...
Je pense que vous avez raison. Vous avez raison là-dessus. Je pense qu'une des choses qui a une bonne chance d'arriver au mois de mars, avril, c'est quand on va pouvoir ouvrir les fenêtres, on va pouvoir aller dehors, à moins qu'on ait un variant comme Omicron qui est arrivé en plein milieu de l'été en Afrique. Il y a des bonnes chances que les choses se calment au printemps. Alors donc, si on étire ça un peu, que ce soit le port de masque à l'école ou que ce soit le passeport vaccinal, je veux dire, c'est pas comme si on le fait pendant des mois et des mois et des mois, à moins que la situation se détériore soudainement. Je pense qu'il y a moyen d'être prudent, puis en même temps d'accélérer le déconfinement. Puis au lieu de viser des dates mi-mars, ben, peut-être que ce qu'on devrait regarder, c'est des choses à mi-avril ou un peu plus tard.
Parfait, merci, Dr Veillette.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Dr André Veillette est immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal et membre aussi du groupe de travail sur la vaccination contre la COVID-19. Puisqu'on parle des écoles, Nicolas Prévost est avec nous, le président de la Fédération des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Je ne sais pas si vous êtes capable de répondre à ma première question, parce que quand on demande au gouvernement, vous avez dépensé combien pour la qualité de l'air dans les écoles? Je lis un journal ce matin qui dit qu'il n'y a pas de chiffre. Un autre prétend qu'on d'ici la fin de l'année, ça va être 500 millions. Il se fait quoi dans les écoles, là? Puis, parce qu'on peut jouer avec les chiffres puis leur faire dire bien des choses, là. Ce que vous savez, là, en termes d'amélioration, de nettoyage, de réparation, d'installation de système, ça ressemble à quoi?
Bon, sur les chiffres, effectivement, je peux pas m'avancer. On n'a aucune idée. Mais ce que je peux vous dire concrètement sur le terrain pour des travaux, bon, quand on parle de nettoyage des systèmes de ventilation, ça se fait quand même assez bien, même en présence élève ou le soir, là, quand les élèves sont partis, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. L'installation, on le voit aussi avec l'installation, le décapteur de CO2, c'est quand même quelque chose qui peut s'organiser pendant les journées de fréquentation scolaire. Mais quand on parle de travaux majeurs, de changement de système de ventilation, d'installer de nouvelles fenêtres, bien, cette plage-là de travaux majeurs, bien, c'est dans des semaines de relâche, c'est lors de la période estivale, c'est quand nos élèves ne sont pas présents à l'école. Donc, ça ne donne pas des plages qui sont très, très grandes, je vais dire ça comme ça. C'est là qu'on fait les travaux majeurs. Donc, d'estimer le coût, c'est difficile. Oui, il y a eu des travaux l'été passé, il y en a eu beaucoup. On sait que dans la semaine de relâche qui s'en vient, il y a des travaux qui sont aussi planifiés, mais là, pour travaux majeurs. Mais sinon, on est plus dans des rectifications mineures.
OK. Et la deuxième question, disons, depuis le retour qui a suivi le congé de Noël, avez-vous l'impression que le nombre, puis prenons une classe un peu théorique, là, je sais pas moi, de 22 élèves, il en manquait 4, là, ça s'améliore un peu chaque jour.
Oui, on a eu, là, du retour des fêtes jusqu'à la première semaine de février, là, on avait une augmentation du taux d'absence relié à la COVID, là, autant chez le personnel que chez les étudiants.
OK.
Depuis le 1er février, ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse constante jusqu'à maintenant, là, du taux d'absence. Donc, ça l'a diminué de 50 %. Mais on a encore, quand je dis 50 %, je vous donne un exemple, on avait 3200 élèves d'absents début février. Là, on en a encore 1600 à l'heure où on se parle. Donc, il y a amélioration constante, mais il reste encore quand même beaucoup d'absences reliées à la COVID, autant chez les élèves que chez le personnel.
Est-ce que ça vous inquiète, vous, qu'on retire le masque, en tout cas qu'on l'autorise, là, le retrait du masque, pour les élèves du primaire et du secondaire après la semaine de relâche?
Ben, c'est sûr je dirais que nous, on voit quand même ça comme une bonne nouvelle, mais je le dis d'un optimisme modéré, hein, parce que je pense qu'il faudra suivre l'évolution aussi une fois qu'il y aura le retrait du masque. On l'a maintenant en temps réel là, au niveau de nos absences, d'être vigilant si on voit une recrudescence des absences et de peut-être faire une modification. Et moi, je reviens toujours à... Nous, on se fie à la santé publique. Hein. Vous le savez, on a eu une rencontre hier avec M. Boileau qui nous explique que tous les indicateurs sont ouverts, qu'il y a une recherche là, que je crois qui sera présentée cet après-midi lors du point de presse qui a été fait à Sainte-Justine sur le nombre d'élèves de jeunes qui ont été atteints de la COVID, là, qui permet ce changement-là au niveau de la mesure sanitaire. Moi, je pense surtout aux élèves, là, nos plus petits, nos élèves vulnérables, au niveau de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. On sait que ça passe beaucoup là, par l'oral, conscience phonologique chez nos jeunes. Donc, pour eux, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle.
M. Prévost, toujours un plaisir. Bonne journée.
Vous aussi, bonne journée.
Merci. Nicolas Prévost est le président de la Fédération des directions d'établissement d'enseignement. Alors, vous avez entendu le docteur Veillette qui lui a des réserves, qui pense que c'est politique et beaucoup moins scientifique. M. Prévost qui dit que les cas s'améliorent, mais on est dans un optimisme prudent. Puis d'autres spécialistes, là je parle pas de ceux de la santé publique, mais je pense au docteur Weiss qui dit, ben collectivement, on est rendu là. Et que c'est sûr que peut-être que les cas vont augmenter un peu, mais en même temps, il y a tout l'enjeu pédagogique que M. Prévost vient de parler. Puis là, on marche vers le mois de mars, puis après ça, le mois d'avril, puis le beau temps. Ça va être intéressant quand même à suivre. Et il y aura point de presse cet après-midi, justement, de M. Boileau, directeur par intérim de la Santé publique.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.